France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment surmonter la perte du désir conjugal? Le désir qui occupe une place centrale dans les réflexions du couple, comme l'écrit la sexologue clinicienne Cécilia Como dans son nouveau livre. Le désir devenu le pivot, souvent décisif, de sa durée ou de son caractère monogame. Nous verrons comment fonctionne le désir, pas seulement dans sa dimension sexuelle. Quelles sont les différences entre le désir masculin et féminin? Quelles sont les causes principales qui émousse la libido, comment réinjecter du désir dans le couple? Élément de réponse avec la sexologue Cécilia Como et avec la gynécologue et endocrinologue Juliane Berda. Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Tu sais Audrey, j'ai bien réfléchi. Faudrait qu'on parle un peu quand même.
Oui, j'écoute.
Bah tu vois, toi avec ton boulot, moi avec mes gardes, on est tombé un peu dans la routine, non? Je pense qu'il faudrait peut-être amener un peu de piment à notre vie. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Hein, et je sais que moi de mon côté, je dois évoluer. Et puis aussi que notre couple doit retrouver un peu d'harmonie. Mais je crois vraiment que notre couple doit devenir plus mature et redevenir comme avant. Il faut que je sache faire un pas vers toi. Et toi aussi, accueillir mes pas vers toi. Enfin, mes pas vers nous, vers le désir. Avec peut-être plus de pas venant de toi, à moi.
Ça fait beaucoup de pas, tout ça.
Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Vous êtes sexologue, clinicienne, psychanalyste, créatrice du podcast L'Intimité en question et vous publiez un très bel essai passionnant chez Albin Michel. J'ai envie, moi non plus, la délicate question de la libido dans le couple. Tiens, que vous inspire cet extrait de 7 ans de mariage avec Didier Bourdon et Catherine Fro?
J'ai une certaine, en écoutant Didier Bourdon, j'ai une certaine tendresse parce que c'est vrai quand même que il y a une grande maladresse et à exprimer les choses. Pas que, en fait, c'est ce qu'on retrouve hein, dans les consultations. C'est comment exprimer le fait que je ne me sens pas désirée. Bon, après, ça reflète bien ce qui se passe, parce qu'effectivement, il ne se pose pas la question de sa propre désirabilité. Tout de suite, il accuse la routine, sans lui demander à elle qu'est-ce qui fait que son érotisme et son désir ne sont plus là.
Le désir, c'est donc une question centrale, cruciale, lors de vos consultations?
Oui. Et j'ai souvent dit, c'est pas, on a l'impression que la question centrale c'est la sexualité et souvent d'ailleurs la fréquence, mais c'est pas ça la question centrale finalement quand vous interrogez les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est vraiment la notion du désir, de se sentir désiré. C'est vraiment ce qui rend vivant les couples. Vous pouvez avoir une vie sexuelle qui existe et pour autant s'en plaindre parce que vous sentez que c'est, alors les gens vont utiliser le mot mécanique, le mot passif, parce que vous sentez qu'il n'y a pas de désir derrière.
Qu'est-ce que le désir qui déborde le seul cadre de la sexualité? C'est un peu flou dans le Larousse et dans le Robert, dans le petit Larousse illustré, c'est l'action de désirer, sentiment de celui qui désire, objet désiré, c'est aussi l'appétit sexuel, et dans le Robert illustré, tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginaire. Et quelle est la définition de la sexologue clinicienne et psychanalyste que vous êtes?
Alors, le désir, on peut dire que c'est quand même plus une notion un peu philosophique, biologique ou psychanalytique, si on le compare à l'excitation qui serait plus biologique et à la libido qui serait plus psychanalytique. Je pense que le désir implique nécessairement une intention, comparativement aux autres termes que j'ai utilisés, et un élan en fait vers l'extérieur. C'est pour ça que, par exemple, quand on me parle de la masturbation et que j'entends parfois des gens dire « c'est du désir », Non, c'est pas du désir, on se désire pas soi-même, c'est plus de l'ordre de l'excitation. Je pense vraiment que le désir se dirige, et pas que sexuel, hein, le désir en général se dirige vers l'extérieur. Alors oui, très certainement pour obtenir satisfaction, mais aussi avec l'idée qu'il y aura du plaisir à la clé. Alors c'est pas toujours le cas, mais voilà, le désir anticipe en fait une satisfaction. Et c'est important dans la sexualité, parce que si on ne peut pas anticiper une satisfaction, ça va être compliqué de désirer.
Bonjour docteur Julienne Berda.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, endocrinologue. Est-ce que le désir, c'est aussi une question hormonale pour vous ?
Oui et non. En fait, pour revenir à ce que vient de dire ma collègue, le désir, c'est aussi, je vais retourner la question, quelqu'un de désiré. Quelqu'un qui désire devient désirant. On dit femme désirante, femme désirée. Et en fait, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est le désir de l'autre qui va faire que la personne ait du désir. Maintenant, moi, en tant que médecin, quand je vois des patientes qui aiment dire « j'ai plus de libido », je leur explique souvent que la libido, c'est pas simplement le désir sexuel. La libido, c'est l'envie de vivre, l'envie d'être bien. Et souvent, sous-jacent, parfois, vous me direz, il y a une dépression sous-jacente. Donc, en tant que médecin, je m'attache toujours à ça, pour voir s'il n'y a pas autre chose. Ensuite, vous l'avez très bien dit, on anticipe. C'est-à-dire qu'une femme qui, chaque fois a des mycoses, chaque fois a mal, elle va anticiper en négatif le rapport sexuel et elle ne sera plus désirante. Donc, on parle souvent de la ménopause, mais il n'y a pas que la ménopause. C'est-à-dire que les femmes jeunes, quand elles ont des douleurs, quand elles ont une vulve d'inouïe, elles ne vont pas aller vers l'homme. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un échange entre les deux partenaires. Et ça, c'est un point très important.
Vous évoquez la question des douleurs hein, dans votre livre, Cécilia Como. Hein.
Alors, je n'étais pas supposée le faire parce que c'était quand même un livre plus sur le désir psychologique, donc j'étais pas orientée santé sexuelle comme le sont certaines de et certains de mes collègues, mais j'ai tellement de jeunes femmes au cabinet venant me voir pour me décrire en fait ce qui est du vaginisme, c'est-à-dire une contraction des muscles périnéaux qui font que toute pénétration, et que ce soit une pénétration même avec un tampon, et là où ça pose plus de problèmes pour des consultations médicales, est complètement impossible. Et tout ce qui est de l'ordre des vulvodynites, c'est-à-dire les brûlures à l'entrée de la vulve, tout ce qui va être douleur. Et je me suis dit, si j'en parle pas, je vais encore avoir des jeunes femmes qui me disent, quand on en discute, alors c'est ça. En fait, ça fait 4 ans que je me crois anormale. C'est vraiment le terme que j'entends tout le temps. Donc je me suis dit, je vais quand même le placer dans ce livre, même si c'est pas l'objet du livre, parce que c'est important que toutes les jeunes femmes se disent que, un, la sexualité n'est pas supposée faire mal. Donc si elles ont mal, c'est qu'il y a un problème, et souvent un problème physiologique.
Docteur Julienne Bernard.
Alors je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, paradoxalement, les jeunes, même très jeunes, hein, 13-14 ans, sont sur des réseaux, des films pornographiques et tout. Donc ils commencent une sexualité imaginée ou imposée. Et en fait, je m'aperçois que les jeunes femmes ont une sexualité vraiment désirée et désirante beaucoup plus tardivement. Parce qu'il faut faire comme ça, pour les copines, pour dire à tout le monde. Et en fait, ceci entraîne parfois des expériences douloureuses et elles n'y retournent pas à cause de ça.
Le docteur Berda a employé un terme, libido. Est-ce que le désir, c'est la même chose que la libido au sens psychanalytique ? La libido, c'est une pulsion psychobiologique inconsciente. Est-ce que c'est synonyme ?
Alors, c'est non, pour moi, ça n'est pas synonyme. C'est proche, hein, mais encore une fois, je pense que ça appartient à des registres différents.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que bon, la libido, c'est un terme qui est vieux, hein, qui est déjà utilisé par les Grecs, et puis par saint Augustin, qui n'a pas fait du bien aux femmes en parlant de libido sur l'envie un peu démoniaque que pourraient avoir les femmes. Et puis bon, ce terme est réutilisé, repris par Freud, qui va l'utiliser, alors lui, vraiment comme une énergie sexuelle. Et puis encore une, après, on va avoir quelqu'un comme Carl Jung, qui va lui, et ça j'aime beaucoup, la décrire comme une énergie globale, une énergie de vie, avec une composante sexuelle. Donc, on voit bien que, enfin, en tous les cas, moi, je me rends compte que la libido, elle peut aller sur divers terrains. On le voit avec des artistes. Moi, j'avais été assez frappée par le peintre Francis Bacon sur ses tableaux de Torero. Bon, on voyait très, très bien qu'il avait projeté, en fait, sa propre libido sur ses peintures. Elle peut, c'est comme un fleuve. Je dis souvent, elle peut être déroutée et envoyée ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. Et c'est vrai que quand il n'y a plus du tout de libido, il y a quand même la question de quelqu'un qui, potentiellement, peut être déprimé ou avoir... voilà, c'est vraiment c'est une énergie de vie. Donc, il y a quand même une question. Et moi, souvent, je m'interroge avant que ce soit sexuel, pourquoi cette énergie de vie n'est plus là. Le désir, bon, c'est beaucoup plus serré, c'est pas une énergie, encore une fois, c'est une intention.
Et on reviendra tout à l'heure sur les multiples tues, le désir, comme le stress, le souvenir d'expériences insatisfaisantes, un jugement négatif sur son corps, l'ennui, la méfiance, l'état de santé, les contrariétés financières, le ressentiment, l'inhibition et même vous l'écrivez, les mauvaises odeurs. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Quel est le menu de vos dernières questions toujours pertinentes de la saison?
Eh bien, vous venez de le dire, Ali. Quel est le top 3 des tues l'amour? Et quelles portes érotiques rouvrir pour raviver le désir?
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psy préféré, mais également ancien thérapeute de couple. Quel est le menu de votre dernière chronique de la saison?
Bon, deux petites questions de rien du tout. Qu'est-ce que le désir et quelle est sa place dans nos vies?
En tout cas, vous avez aimé le livre de Cécilia Comeau, hein? Alors que c'est pas trop votre genre,
non,
a priori.
Non, c'est pas ma tasse de thé, les bouquins qui tournent autour de la sexualité. Et là, je me suis régalé. Il ouvre vraiment la réflexion largement et j'ai appris plein de choses.
France Inter. Et si on jouait des rôles?
Des rôles?
Ouais. Grand bien vous fasse.
Mais tu voudrais que je sois qui?
Un garagiste.
Trop.
Un flic.
Ouais.
Un pompier. Un pompier, tu viendrais éteindre mon feu.
Ali Rébéi.
Et ce matin, comment surmonter la perte de désir dans le couple et comment rebooster sa libido avec la sexologue clinicienne Cécilia Comeau et avec la gynécologue endocrinologue Juliane Berda.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre chose dont vous souhaiteriez me parler?
J'ai la sensation parfois que ma vie est en train de filer à toute vitesse. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que je vais vraiment finir mes jours en dormant à côté d'un homme qui ne m'a pas touchée, à proprement parler, depuis presque 6 ans?
C'est une épreuve que beaucoup de couples doivent affronter. Cependant, il est toujours possible de raviver la passion.
Qu'est-ce que vous me conseillez?
Il faudrait que vous m'en disiez un peu plus sur votre relation de couple.
Extrait de la série Sex Education. Cécilia Comeau, je rappelle que vous publiez J'ai envie, moi non plus. Ça vous parle évidemment, dans votre cabinet, vous avez forcément ce type de profil.
Oui, et un des sujets ou un des soucis typiquement dans ce qu'on a entendu, c'est que quand une femme vous raconte ça, en fait, vous avez envie de voir son partenaire surtout, parce qu'on ne fait rien tout seul dans la sexualité. Et c'est assez représentatif de gens qui se sentent délaissés, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont plus désirés. Et il vous manque une voix, en fait. Il vous manque la voix de l'autre, qui est indispensable, en fait, pour comprendre et pour trouver des solutions.
Le sous-titre de votre livre, c'est la délicate question de la libido dans le couple. Pourquoi délicate?
Parce que les gens en parlent très peu.
Ouais.
Parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un, par exemple, je m'ennuie. Je m'ennuie sexuellement, l'autre va entendre « tu m'ennuies », alors que ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est la libido et l'absence de libido, elle se dit souvent par des grosses explosions. On explique qu'une fois tous les 6 mois, celui qui n'est pas désiré va, ou elle, va exploser, et puis ça retombe. En fait, on n'arrive pas à en parler clairement, parce que la personne qui ne désire pas va se mettre immédiatement sur la défensive, et se sentir attaqué.
Docteur Juliane Berda.
Sur cet entretien qu'on a entendu, ça m'interpelle. Souvent, paradoxalement, je vois les femmes, et en fait, c'est les hommes qu'il faudrait voir, effectivement, comme vous venez de le dire. Il faudrait se demander pourquoi ce monsieur n'a plus de désir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, chez l'homme, le fait de ne plus avoir d'érection, C'est quelque chose de... Ils ont honte, ils n'ont pas envie d'aller vers la femme. Et ces troubles de l'érection peuvent révéler des problèmes cardiovasculaires. Mmh. Donc c'est très important de sensibiliser la femme et de lui dire, voyons, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a plus envie? Bon, soit il a une autre relation extérieure, c'est une autre histoire, mais ça c'est plutôt la sexologue. Soit il a vraiment un problème perso, soit il est déprimé, parce qu'il peut être déprimé. Soit il peut avoir vraiment un trouble de l'érection avec plus du tout d'érection. Et là, il faut qu'il soit pris en charge. Et les hommes détestent qu'on parle de ça. Surtout quand c'est la femme qui vient dire à la gynéco, il a plus envie de moi. Et effectivement, quand il a plus envie d'elle, eh ben, elle n'est plus désirante. Et ça, c'est un problème.
Et l'andropause dans tout ça? Expliquez-nous peut-être en deux mots ce qu'est l'andropause.
Je suis gynéco, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc, la femme comme l'homme, avec l'âge et le vieillissement, on a une diminution des hormones sexuelles. Pour la femme, les œstrogènes, pour les hommes, la testostérone. Et effectivement, le fait que la testostérone diminue, ça entraîne des troubles de l'érection. Pas toujours, hein. Il y a des hommes qu'on dit verts, qui à 80 ans ont une super libido, une super érection et tout. Mais il y a une diminution. Et ce n'est pas que hormonal. Le problème surtout, je reviens là-dessus, il est cardiovasculaire. Et les vaisseaux du pénis, ce sont des vaisseaux très fins. Et quand il y a un problème à ce niveau-là, il faut surtout, surtout consulter de cardio. Et quand je dis ça à mes patientes, souvent, elles sont interpellées en disant « mais je ne comprends pas, ce n'est pas le problème, mais si ». Donc, il faut voir si le monsieur n'a pas pris un petit peu de ventre, s'il n'a pas de l'embonpoint, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialement gros, mais ils ont du ventre. Et là, ça joue sur le risque cardiovasculaire.
Et vous avez raison, parce que de nombreux cardiologues sur cette antenne, à ce micro, nous ont souvent dit que les problèmes d'érection chez l'homme, après 40-50 ans, pouvaient être liés aux problèmes cardiovasculaires. Cécilia Como, l'idée de votre livre, c'est donc de lever le voile sur toutes les fausses croyances, les certitudes erronées, les légendes urbaines, les convictions inexactes sur le désir.
Oui, bah, c'était aussi pour, comment dire, oui c'était surtout ça, mais pour raconter un petit peu comment ça se passe en vrai, en fait. Parce que j'entends, voilà, c'est venu de gens qui me disent « je crois que, je pense que, on m'a dit que ». Et ça a l'air de rien, mais finalement, les malentendus ou l'absence de connaissances, ça enraye aussi beaucoup de choses dans le désir. Et puis les gens qui ne désirent plus, très souvent eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ne désirent plus. Ou souvent, ils voient une cause... arrive avec un obstacle, le lève et comprennent pas pourquoi ça continue de ne pas fonctionner. Bah parce que les tulles désirs, ils travaillent en équipe. Malheureusement, ils ne fonctionnent pas par un. C'est des couches de sédiments qui s'agglomèrent les unes aux autres et qui, à un moment donné, constituent un mur. C'est aussi pour ça, je précise, que je suis partie de l'idée que c'est pas en rajoutant des choses que le désir revient. Alors des choses, des artifices, mettre de la lingerie, etc. Victoria's Secret serait aussi riche qu'Amazon, ça se saurait quand même.
La marque de lingerie célèbre.
Donc c'est surtout en enlevant en fait des choses, en retirant des choses qui pèsent et qui gênent.
C'est sûr que si vous enlevez la lingerie, bon bref, docteur Julienne Berda.
Moi je voudrais revenir parce que sur ce que vous dites, en fait les femmes souvent me disent « j'ai pas de libido quand elles ont plus de 50 ans, donnez-moi des hormones ». Les hormones, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que si elles sont, je reviens là-dessus, déprimées, bah ça va pas marcher. Si elles sont pas bien, donc des fois, elles veulent un traitement hormonal pour ça. Et elles remettent pas en cause, effectivement, la relation qu'elles ont dans leur couple et tout. Par contre, là, en tant que médecin et gynéco, là où j'interviens, c'est que c'est vrai que si elles ont une sécheresse vaginale, si elles ont des infections à répétition, ou un problème de flore vaginale, leur donner un traitement, pas spécialement par voie générale, hein, souvent, il faut faire attention, mais local, un traitement bien expliqué améliore énormément les rapports sexuels, elles ne seront plus en négatif. C'est-à-dire que si elles n'ont plus mal, elles vont y retourner. Et si en plus elles ont du plaisir, elles vont y retourner. Donc il y a vraiment quelque chose de local à travailler, pas simplement les lubrifiants, mais aussi un traitement local. C'est un point important.
Question de Marie-Laure Zenshein, de Femme Actuelle.
Oui, Cécilia Como, on peut aborder maintenant avec vous, évidemment, les tue-l'amour. Vous avez commencé à en parler. Alors, on pourrait se dire comme ça, spontanément, je suis sûre que si on posait la question à nos proches, on dirait à ton avis, qu'est-ce qui fait que le désir diminue un petit peu? c'est la durée de la relation, c'est la routine. Et vous, vous dites non. Oui. Le numéro un, c'est le ressentiment. Oui. C'est ces petites situations-là qui nous ont agacés, qui nous ont énervés, qui nous ont déçus. Oui. Ce partenaire.
Vous ne voyez pas les mimiques de Marie-Laure.
Oui. Non, mais je mets les mains dans le dos. Voilà, regardez.
On sent le vécu.
Alors, voyez ce truc-là qu'il n'a pas dit et qu'il n'a pas fait. Bon. Ouais. Alors, ça, c'est des vrais grains de sable. Ouais. Et pour le coup, pour les chasser, ce n'est pas évident.
Oui, alors ça, c'était aussi, pour répondre à la question précédente, un des objectifs, c'était de dénicher des tulle désirs qui sortent des sentiers battus. Parce que une fois que vous avez éliminé plein de choses et que la personne n'a toujours pas envie, il faut quand même continuer à creuser. Alors, dans les discours, en fait, je me suis rendu compte que le ressentiment, et ça, les gens s'en rendaient même pas compte. En fait, le fait d'avoir gardé, alors on pourrait dire un vieux dossier en stock au fond de soi, bloque énormément, parce que c'est la déception, c'est aussi le changement de regard, ce dont je parle, c'est-à-dire que je vais commencer à regarder l'autre différemment. Et à partir du... Et en fait, si on revient à l'envers sur qu'est-ce qui m'érotise, ben c'est dans mon regard. J'érotise des choses, ça m'est individuel. Donc je peux aussi désérotiser. Et quand j'ai du ressentiment pour quelqu'un, je risque fort de le désérotiser. Et effectivement, quand on creuse et qu'on a enlever d'autres obstacles comme la fatigue ou autre, et que malgré tout, il n'y a toujours pas de désir, eh ben, souvent, on rencontre le ressentiment sur des situations qui ont eu lieu il y a longtemps.
Docteur Julien Berda.
Oui, ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans les histoires de couple long terme, il y a toutes ces petites histoires, toutes ces petites chamailleries, mais vraiment même pas dites, mais qui restent en suspens. Et pour revenir un peu à mon aspect gynéco, j'ai eu une de mes patientes qui m'avait vraiment étonnée. 72 ans, elle rencontre un homme pour lequel elle est la femme. Et honnêtement, cette femme, sans traitement hormonal, sans rien, elle a eu une lubrification locale et elle a été désirée, donc désirante. Et j'étais vraiment surprise parce qu'elle n'avait pas eu de rapport depuis une quinzaine d'années pour vous dire que ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe, et c'est le plus important.
Et on parle de ressentiment et pourtant, les disputes peuvent parfois stimuler le désir. Ce ne sont pas toujours des tue-l'amour. Quand on se réconcilie sur l'oreiller, par exemple.
Ouais, bah alors déjà, j'en ai pas beaucoup, moi, qui se réconcilient sur l'oreiller. Je les cherche encore, hein, honnêtement. Et surtout, ça dépend de quelle dispute. Parce que franchement, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que l'état dans lequel on est quand on est très en colère ou énervé n'est pas un état érotique pour l'autre. Et puis, deuxième chose, quand on est énervé ou en colère, on devient hostile. Et quand vous êtes en face, vous imaginez bien que notre cerveau ne nous permet pas de tomber dans les bras de quelqu'un qu'on considère comme hostile. C'est presque, comment dire, évolutionniste. On ne peut pas lâcher prise dans les bras de quelqu'un qu'on considère hostile. Donc la colère, en fait, nous transforme. J'avais utilisé le terme d'une patiente qui me disait « Comment vous voulez que j'ai envie de cette énergumène ?» Et parce que quand il était en colère, oui, il ressemblait à une espèce de fou furieux qui s'agite. Donc, je n'y croyais pas il y a 3 ans quand j'ai écrit mon premier livre. Bah, écoutez, depuis, je n'ai toujours pas vu quelqu'un me dire « Si, nous, on se réconcilie super bien sur l'oreiller. »
N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. La fatigue, tout de même, c'est un frein au désir. On connaît tous cette phrase « Non, pas ce soir, je suis fatigué ». Les discussions autour de la fatigue occupent une grande place dans vos consultations, Cécilia Como.
Alors,
et c'est pas, et vous le rappelez, et c'est déculpabilisant, c'est pas une excuse facile pour décliner une invitation sexuelle. Il faut prendre au sérieux cette fatigue au sein du couple.
Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, en me disant « Est-ce que je vais parler de la fatigue ?» Et je me suis dit « Oui, bien sûr. Pourquoi ?» Parce que si la libido est une énergie, ce qu'elle est, comment voulez-vous, quand vous êtes fatigué, épuisé, moi, les femmes ou certains hommes me disent, moi, je pose la tête sur l'oreiller, bim, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous, quand vous êtes épuisé, avoir une quelconque énergie pour la sexualité? C'est comme une batterie, en fait. Quand elle est vide, elle est vide. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone quand il vous reste 0%. C'est la même chose. La fatigue, c'est vraiment un frein majeur. On le rencontre beaucoup dans les familles, hein, où il y a des enfants, des petits-enfants. C'est vraiment très important de considérer qu'à un moment donné, c'est peut-être bête, mais oui, la sexualité disparaît juste à cause de quelqu'un qui est épuisé, et derrière il y aura du ressentiment parce que je suis épuisé mais je ne suis pas aidé ni soulagé.
Et oui, parce
donc
que
là on entre dans une autre phase.
Et oui, parce que la fatigue est donc un obstacle au désir sexuel, notamment chez les femmes confrontées à une charge mentale plus grande que chez les hommes. En 2023, des chercheurs australiens ont noté que la fatigue était plus fortement liée à une baisse du désir chez la femme que chez l'homme. Et notons que si la fatigue a un impact fort sur le désir féminin, c'est parce qu'elles produisent aussi 10 à 20 fois moins de testostérone que les hommes.
Alors, vous voyez, c'est comme ça que les obstacles s'accumulent et font comme font sur les rivières là, les ratons laveurs et font un mur. Vous avez la fatigue, puis vous avez le ressentiment lié à la charge mentale, aussi lié au fait que la personne qui est en face ne comprend pas que vous soyez fatigué et va... j'allais dire chouiner, c'est pas terrible, mais va chouiner sur le fait qu'il n'y ait pas de relation sexuelle. Donc tout ça va s'agglomérer et va petit à petit constituer vraiment un mur en face. Oui, c'est vrai que la testostérone est quand même une hormone un peu anti-fatigue, ce qui expliquerait entre autres pourquoi vous avez des hommes qui sont moins fatigués le soir, des hommes, je dis bien, parce que vous avez aussi des hommes qui sont épuisés, pas tous les hommes. Mais il y a aussi beaucoup le fait qu'on a des femmes qui s'agitent de 7h du matin jusqu'à 21h, elles n'arrêtent pas.
Docteur Judane Berda.
Oui, je reviens sur cette histoire de testostérone. C'est vrai que ça joue, mais je pense que ça joue pas beaucoup. Parce qu'en pratique, c'est vrai qu'on a parlé de charge mentale, et c'est bien que vous ayez parlé de ça. Quand une femme a des enfants en bas âge, qu'elle doit s'occuper, qu'elle doit gérer sa maison, qu'elle doit gérer son travail et toute l'intendance, le soir, effectivement, elle n'est pas très amène pour avoir un désir sexuel. Et en fait, souvent, je pose la question à mes patientes en leur demandant, et pendant les vacances, comment ça se passe? Et quand ils me disent que pendant les vacances, eh ben ça va, ils reprennent, je me dis, bon, le couple va pas trop mal. Et que c'est vraiment autre chose. Par contre, derrière tout ça, parfois, c'est aussi chez la femme, comme chez l'homme, je pense, un problème d'estime de soi. C'est-à-dire, j'ai grossi, j'ai pas envie de me mettre nue, je me sens pas très bien dans mon corps. Il n'y a pas que la fatigue, et il y a des voies détournées pour éviter, comme les migraines, pour n'importe... éviter le rapport sexuel.
J'aimerais qu'on évoque l'estime de soi dans un instant à Christophe André, mais avant tout, qu'est-ce que vous préconisez aux couples qui sont fatigués et je pense par exemple à ces couples composés d'une leftar ou d'un leftar et d'un couche-tôt, et qui peuvent connaître des problèmes de désir liés à la fatigue. Qu'est-ce que vous préconisez justement quand la fatigue, c'est le cœur central de la perte du désir?
Alors, je préconise en fonction de leur quotidien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment décortiquer la manière dont ils se sont organisés pour pouvoir voir s'ils peuvent s'organiser autrement. Parce que si vous imposez quelque chose à des gens qui ont une organisation particulière, ils vont vous dire « ouais, c'est sympa, mais ça marche pas en fait votre truc, ça marche pas chez nous ». Donc c'est vraiment d'essayer de voir, de décortiquer leur organisation. Et surtout, en fait, le concept premier, c'est quelle place vous donnez à votre couple, quelle place vous laissez à votre couple. Poussez un peu les meubles, voyez ce que vous pouvez changer, rogner, pour laisser une petite place au couple. Parce que si vous n'en laissez aucune, c'est clair qu'il va y avoir un mur à un moment donné. Moi, les gens me disent, on s'était dit, on s'occupe des enfants et on se retrouve quand ils sont plus grands. Mais non, en fait, on ne se retrouve pas parce qu'on s'est perdu, parce qu'on est partenaire de vie, qu'on a complètement désérotisé et désexualisé l'autre, et qu'ensuite, il y a grande chance que ça ne revienne pas. Donc, c'est dès le départ de se dire, oui, c'est compliqué, oui, il y a des enfants, oui, il y a du boulot, mais si le couple est important, quelle place peut-on lui faire? C'est la même chose quand on considère que quelque chose est important pour nous, quelle importance, enfin, quelle disponibilité on lui accorde.
Docteur Berda.
Oui, je voudrais intervenir sur ce que vous venez de dire. En fait, il y avait une émission qui s'appelait Nanny. Vous savez, c'est Nounou qui venait voir à la maison, qu'est-ce qui se passait. Eh bien, il faudrait peut-être être coach de vie,
super
coach
nanny.
De couple, voilà, super nanny, pour voir ce qui se passe en réalité. Le temps passé avec les enfants, le temps réservé au couple, et bon, on ne peut pas le faire dans la vraie vie, mais quand on... Enfin, je prends des patients aussi en charge en nutrition. Quand on les prend en nutrition, on essaye de décortiquer leur mode de vie, comment ils se débrouillent. Et il faut vraiment bien les interroger en disant que c'est pas un espionnage, mais c'est vraiment pour essayer de leur apporter des petites choses en disant à ce moment-là, vous pourriez pas mettre ça à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Et du coup, les choses elles rebondissent, elles mûrissent dans la tête des deux et ça change.
Tiens, le docteur Berda a évoqué la mauvaise estime de soi qui pouvait avoir un impact sur le désir. Christophe André, vous êtes un des grands spécialistes de l'estime de soi.
Oui, oui. En fait, ces questions d'estime de soi, elles sont centrales dans tous les aspects de la vie des humains, dont les relations de couple et la sexualité. C'est vrai que les problèmes, lorsqu'on a des problèmes d'estime de soi, il y a deux angles. D'abord, on a une mauvaise image personnelle de ce que nous sommes, et en l'occurrence, là, on parlait de l'image du corps. On est complexé, on n'aime plus son corps, si tant est qu'on l'ait un jour aimé. Et puis on craint le regard de l'autre. On a peur que l'autre, on est même convaincu que les autres ne peuvent pas aimer notre corps, puisque nous on ne l'aime pas, on est devenu expert de ses défauts. Et ça introduit des grandes difficultés dans la relation sexuelle, parce que une partenaire, une femme qui n'aime pas son corps, qui pense que son partenaire ne peut pas l'aimer tel qu'il est, lorsqu'il y a un désir sexuel de la part du partenaire, elle n'arrive pas à l'attribuer à l'amour, à l'attachement, à l'affection, elle l'attribue à la pulsion, la dissocier de ce qu'elle est vraiment. Il veut juste tirer un coup, entre guillemets, mais il ne me désire pas. Et les problèmes d'estime de soi vont se glisser comme ça, vont parasiter la perception que certaines femmes peuvent avoir du désir de leur partenaire, enfin, me semble-t-il.
Petite parenthèse, on a une perspective hétérosexuelle là dans nos échanges, mais ça vaut aussi pour le désir homosexuel, Cécile Acomo, parce que dans vos consultations, vous avez tout type de couple.
Oui, et puis dans mon livre, j'ai aussi parlé d'hommes gays, de femmes lesbiennes. C'est toujours la grande constante, c'est-à-dire dans les couples, peu importe comment ils sont constitués, on retrouve les mêmes grandes lignes.
Est-ce que le désir sexuel masculin fonctionne de la même manière que le désir sexuel féminin ?
Ah, ça c'est la question. J'ai presque envie de dire, ça sera oui et non. Oui, parce qu'ils sont quand même très nombreux à revendiquer que eux aussi ils aiment les mots doux, eux aussi ils aiment les caresses, eux aussi ils aiment l'intimité, ils aiment l'affection. Ils ont envie qu'on leur fasse des compliments. Ils sont souvent quand même à dire que ils sont pas des espèces de bêtes furieuses sexuelles et qu'ils ont envie un peu comme ça de douceur. Après, il y a une chose qui est un peu différente et qu'on constate, c'est qu'ils n'entrent pas dans la sexualité comme les femmes. Et c'est là où il y a vraiment une différence qui peut parfois créer des grands malentendus. Les femmes ont tendance à entrer dans la sexualité par le biais de l'intimité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord de l'intimité large, des moments passés ensemble, de l'attention, je dis souvent de la complicité, de la rigolade. Avoir créé une intimité pour ensuite aller vers la sexualité.
Et exemple, ma chère Cécile Acomo, avec cet extrait de Sex Education. Ça va dans votre sens.
Michael, tu viens de coucher ? J'ai pensé qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. On pourrait peut-être même... Ou alors... Juste se prendre dans les bras, si...
Je t'en prie, Maureen. C'est bon, j'ai plus 23 ans. Tu ferais mieux de te changer, d'accord ?
Cécile Acomo, extrait de Sex Education.
C'est presque tellement fréquent que c'est presque stéréotypé.
C'est presque caricatural.
Oui. Et à l'inverse, les hommes, ils vous le disent clairement, ils entrent dans la sexualité... pour atteindre l'intimité. Alors là, on est vraiment sur un système en miroir. La sexualité, pour eux, c'est vraiment une porte vers l'intimité. C'est d'abord, souvent, je dis, eux, ils font l'amour, parce que j'ai quand même beaucoup d'hommes qui font l'amour. J'ai très peu d'hommes, en fait, qui tirent un coup, pour le dire aux auditeurs. Je reprends, parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que les gens pensent au cabinet. Ils font l'amour, et donc, pour eux, la continuité de ça, c'est d'arriver dans l'intimité. Sauf que là, on a deux systèmes différents. Et très souvent, on me regarde et on me dit, alors, comment on fait ? Dans quelle pièce en premier ? Et je leur dis souvent, écoutez, ça va être plus simple de faire d'abord l'intimité puis la sexualité, ça va pas vous coûter grand chose en réalité puisque vous êtes quand même supposé être amoureux et aimer votre partenaire homme ou femme. À l'inverse, le système qui serait d'aller dans la sexualité d'abord pour obtenir de l'intimité, ça peut pas fonctionner. Le cerveau féminin peut pas être contraint pour qu'ensuite ça se passe bien, ça ne peut pas marcher comme
Julianne
ça.
Berda.
Alors effectivement, les femmes souvent ont besoin d'un temps intime intimité. C'est-à-dire passer une soirée au restaurant, recevoir des fleurs. C'est un peu cliché, mais c'est quelque chose qui va leur donner envie. Et je suis d'accord avec vous, l'homme, c'est plus dans l'autre sens. Mais donc, il faut pouvoir recréer ces moments à deux. Donc, j'ai interrogé une de mes patientes juste avant de venir. Elle m'a dit, on essaye d'avoir une soirée au restaurant tous les deux. On essaye de faire du sport ensemble. On essaye d'échanger ensemble sur autre chose que la maison, les enfants, tout ce qui se passe. Et une fois que c'est mis là, elles vont vers la sexualité. Et effectivement, l'homme recherche peut-être l'intimité, les câlins, peut-être après l'acte sexuel.
Il est 10h43, l'heure de retrouver la dernière chronique de la saison de notre psy Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
À une époque, le désir était à la mode dans les colloques de psy. À chaque conférence que je faisais alors, je savais qu'à la fin, au moment des échanges avec le public ou les collègues, quelqu'un allait lever la main et me demander « Très bien, mais comment articulez-vous ça avec la question du désir ?» Que j'ai parlé d'estime de soi, d'anxiété, de dépression, de méditation, de consolation, de psychologie positive, il y avait toujours un lacanien dans la salle qui me demandait d'articuler ça avec la question du désir. Du coup, à cause de tous ces collègues frappés de psittacisme, je me suis bloqué sur le concept de désir pendant des années. Je ne voulais plus en entendre parler, sur le plan théorique du moins. J'avais tort, bien sûr. C'est une vraie question, le désir. Une grande question. Le désir, ce n'est pas seulement le besoin qui nous pousse vers ce qui nous manque. Ce n'est pas seulement la pulsion, cette force biologique, animale, obscure. Le désir, c'est une mise en mouvement, un élan vers la vie, une force d'accomplissement de notre élan vital. Tout désir, quel que soit son objet, est un désir de vivre plus fort encore, de tout vivre. Goethe écrivait ainsi « Nos désirs sont les pressentiments de tous les possibles qui vivent en nous ». Désir d'aimer, désir d'être aimé, désir de liberté, désir d'être ensemble, désir d'être seul, désir de courir et de rire de rien, désir de se laisser aller à la tristesse et à la nostalgie, désir de regarder les étoiles, un ciel d'été avec des gens qu'on aime, désir de grimper au sommet d'une montagne et d'embrasser le ciel et l'horizon et d'être bouleversé par la beauté, désir de pleurer avec des amis, désir de retrouver son enfance et tout son passé. Désir de continuer à vivre malgré la maladie. Désir de légèreté et d'insouciance. Désir de ne pas vieillir. Désir de ne pas mourir. Désir d'universel et de fraternité. Ah, il est beau le désir. Il est beau, mais il n'est pas calme. Il est fatigant, parfois épuisant, car toujours il nous pousse à accélérer et non à ralentir, à courir plutôt qu'à marcher. Il est parfois violent, tyrannique, jusqu'à nous mettre en danger. Et c'est pour cela que depuis toujours, les philosophes réfléchissent aux mille et un moyens de contrôler ou d'éteindre ces désirs, ou les plus violents d'entre eux. Écoutez Épictète, à propos de chaque désir, pose-toi la question. Quel avantage pour toi à ne pas le satisfaire ? On se calme, on climatise. La méditation, elle aussi, nous encourage sur cette voie. Quand tes désirs te submergent, assieds-toi, respire, observe avec recul et bienveillance ce qui s'agite en toi et s'apprête à agiter ta vie. Désirer, c'est un verbe transitif. On désire quelque chose, mais en vérité, le désir est aussi intransitif. On désire, un point c'est tout. On désire vivre, on est plein de désirs et il peut se poser sur tout ce qui va passer. C'est la mise en garde du poète Paul-Jean Toulet. Prends garde à la douceur des choses lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd. Le désir est ce qui nous rend vivants. Il est notre capacité à vivre dans une réalité augmentée. Il nous fait voir, parfois jusqu'à l'aveuglement, les choses plus belles qu'elles ne sont, plus désirables, plus bouleversantes. Et puis un jour, où ce qui nous manque, ce ne sont plus les objets de désir, mais le désir lui-même. Car on ne meurt pas de vieillesse, mais de l'extinction de nos désirs et du chagrin qui s'ensuit. En attendant, désirez les amis, désirez de toutes vos forces. Et puisque l'été arrive, voici un petit devoir de vacances pour tenir jusqu'à la chronique de rentrée. En fin de repas, avec vos amis, demandez-vous tous ensemble, est-ce que désirer, c'est vivre ? Ou est-ce que vivre, C'est désiré. J'attends vos copies.
Ça promet de bien belles soirées d'été. Cécilia Como, petite réaction.
C'est dur hein, de passer derrière Christophe André. Non, je trouve absolument magnifique ce qui vient d'être dit sur le désir. Et voilà, ça me conforte dans l'idée d'être une grande défendeuse, défendresse du désir.
Défenseur, eux.
Ah bon, je sais.
Julienne Berda.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui est la monotonie.
Ah, mais vous, ah oh là voilà. Ça donc, sera après le disque. Après le disque, docteur Julien Berda. Voilà, on va parler de l'ennui, de la monotonie voilà. Et de la routine juste après. Okay. Merci beaucoup pour cette saison, mon cher Christophe. On se retrouve la saison prochaine, la 10e saison déjà. Et tous les épisodes des Choses Vues de Christophe André sont à retrouver sur l'appli Radio France et les vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux de France Inter.
Ali Rebéi.
J'en ai fait dans un
même. Grand bien vous fasse.
Hein ? On l'a jamais fait sur l'île de Ré, surtout.
T'as une famille anti-sexe, en fait. Anti-libido. Elle pourrait rendre frigide et impuissant un couple de bonobos.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment surmonter la perte de désir dans le couple? Comment rebooster sa libido avec la sexologue clinicienne Cécilia Como et avec la gynécologue endocrinologue Julianne Berda? Alors, on a évoqué la fatigue. Quid de l'ennui, de la routine, Cécilia Como?
Alors, il y a deux ennuis. Il y a l'ennui qu'on a dans sa vie quotidienne, mais ça, effectivement, il faut aussi peut-être en parler. Le couple a aussi le droit de se dire la vie qu'on mène est un peu soporifique ou autre, mais il y a aussi surtout l'ennui sexuel. C'est-à-dire que quand les relations sexuelles sont pas gratifiantes, sont pas satisfaisantes, c'est là où arrive en fait l'habituation. C'est-à-dire que le cerveau se retrouve en fait n'active absolument plus le système de récompense. Il est là, c'est un des soucis quand même dans la sexualité, c'est de se retrouver à subir au sens de bon, bah, je participe pas tellement, je suis pas vraiment là parce que je m'ennuie. Ça, c'est clair que c'est un obstacle très important parce qu'encore une fois, notre cerveau nous pousse vers ce qui est satisfaisant et nous fait éviter ce qui ne l'est pas. Donc, quelque chose qui est ennuyeux, par définition, c'est pas très satisfaisant. Après, la routine, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui aiment leur routine et qui s'épanouissent dans la routine parce que c'est confortable, parce qu'ils ont des repères. Et puis, il y a des gens, parce que ça ne produit pas suffisamment de dopamine pour eux, ça les endort. Donc, vraiment, c'est selon... je ne crois pas que la routine en soi soit un extincteur du désir. Je pense que l'automatisation des tâches, je pense que l'insatisfaction des tâches, en revanche, oui, ça, c'est nuisible au désir.
Docteur Berda.
Alors, pour parler un petit peu des femmes, puisque je vois essentiellement des femmes, la monotonie d'un rapport, souvent, elles s'en plaignent. Oui, je sais comment ça va commencer, je sais ce qui va se passer, je m'ennuie, bon, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ok, je fais, mais elles n'y retournent plus, parce qu'elles s'ennuient. Et effectivement, je pense que le désir, ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi un petit peu de manque, un peu on désire ce qu'on n'a pas, on désire pas quelque chose qui va être la même chose tout le temps, on a besoin d'autre chose. Il y a un très beau film qui vient de sortir, là, qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, Fragment d'un parcours amoureux, où c'est une jeune femme qui a tout le temps filmé, je ne vois pas faire de publicité, mais qui a filmé tous les amours qu'elle a eus depuis, hétéro et homosexuel, en montrant vraiment ce que c'est le désir et l'extinction du désir. Maintenant, j'ai une question, est-ce que le désir, il peut persister dans un couple sur des années? Comment l'entretenir?
Et d'ailleurs, deux grands cas de figure que j'ai notés dans votre livre, Cécilia Como, si vous faites souvent l'amour, bah, la variété est plutôt recommandée. Si vous le faites rarement, vous n'êtes pas obligé de varier, à condition que vous preniez votre pied, pour parler comme Christophe André.
Oui, c'est quelque chose d'intéressant, hein, parce que l'étude que je cite, elle a montré
de Gilbert.
De Daniel Gilbert, elle a montré que si on fait l'amour sur une fréquence assez lente, varier le rapport sexuel est peut-être pas une bonne idée. Je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, c'est vrai, j'ai des patients qui me disent, nous, on va faire une fois tous les 15 jours, par exemple, mais c'est génial. S'il devait varier et que ce soit moins génial, ça serait moins intéressant. Donc oui, quand on fait beaucoup l'amour, il faut varier, parce qu'encore une fois, le cerveau procède par habituation et va finalement se lasser. C'est pas obligatoire si vous faites peu l'amour.
Beaucoup de questions sur le smartphone. smartphones, l'usage intensif des réseaux sociaux, les séries que l'on regarde au lit et qui peuvent émousser le désir sexuel.
Ça va tout changer et ça a déjà changé beaucoup de choses parce qu'en fait, les séries et les smartphones font appel justement au système de récompense de notre cerveau en emmenant quelque chose de nouveau, en le stimulant. Et donc, quand vous avez une bonne dose de dopamine avec une bonne série, c'est évident que votre cerveau, il a saturé, il n'a plus besoin d'excitation autre que celle que vous venez de lui fournir.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, pour être un peu dans le pratique, j'allais dire. Hein.
Oui.
Vous parlez de portes érotiques. Alors, oui. Ce sont des déclencheurs qui éveillent l'imaginaire et qui ne sont à ne pas confondre avec les fantasmes, hein, si
oui.
On a le temps de,
oui.
De faire la précision. Vous dites elles sont essentielles pour aller vers le désir de l'autre. Vous suggérez de faire une carte érotique. Alors,
oui.
Est-ce que c'est, je sais pas, une espèce de Google Maps des situations, des lieux, des comportements qui vont enclencher ce désir.
C'est une Google Maps de notre territoire érotique. C'est-à-dire que si vous regardez bien, ce que j'appelle les portes érotiques, c'est ce qu'on érotise et qui nous conviennent bien. Par exemple, j'ai des gens qui me disent que embrasser, se rouler une pelle, ça les érotise énormément. Si ça n'a pas lieu avant un rapport sexuel, leur excitation est bien moindre. Il y a des gens pour qui c'est passer du temps ensemble, etc. Donc chacun d'entre nous, c'est très individuel, a des portes érotiques, c'est-à-dire des déclencheurs d'érotisme qui lui sont propres. C'est mieux quand ils sont là. Et pour savoir un peu à quoi ça ressemble, je dis aux gens. Alors c'est pas mon idée, c'est l'idée d'une très grande psychologue américaine, Gina Ojeda, qui avait dit, voilà, dessinez votre carte érotique en disant « Je suis érotisé quand ?» Deux points. Et commencez à lister ce qui vous érotise. Est-ce que c'est danser ? Est-ce que c'est quand tu te déshabilles ? Est-ce que c'est... Voilà, vraiment, c'est vaste, c'est vraiment une carte. Et chacun fait cet exercice. Vous vous fixez une date dans 15 jours, dans un mois. Je dis souvent une date qui sera un rendez-vous non sexuel, parce que l'idée n'est pas de se remettre les cartes et de se sauter dessus, ça s'appellerait la pression. Et donc on échange les cartes, et d'un seul coup vous voilà avec effectivement la carte érotique de votre partenaire. Ça veut dire surtout, maintenant vous savez ce qu'il érotise, et donc vous n'allez pas obtempérer sur tout ce que vous avez, il y a des choses qui vous conviendront sûrement pas, mais maintenant vous savez ce qui érotise l'autre, à vous de voir ce que vous allez en faire.
Docteur Berda.
Oui, je voulais juste intervenir sur quelque chose qui est le temps passé devant son smartphone et le temps de la télé. En fait, souvent, il n'y a plus de temps pour avoir une intimité, avoir des rapports sexuels. Et souvent, on met de façon mécanique la télé, on regarde TikTok, on regarde plein de choses. Et en fait, on se dit, mince, la soirée est finie, je suis crevée, demain je dois travailler. Et ça, c'est un point important, attention à ce temps-là.
Et puis, vous abordez dans votre livre, mais on n'a pas le temps de l'aborder, comment surmonter le décalage d'envie sexuelle que vous avez, oui. Le jet lag sexuel,
oui. Des problèmes les plus fréquents sur la délicate question de la libido. Ce qui a d'ailleurs donné le titre « J'ai envie, moi non plus » est venu de ce décalage d'envie et de fréquence dans les couples qui n'est pas insurmontable.
Et tout l'objet de votre livre, c'est de réduire ce décalage dans le couple. Et je vous conseille vivement ce livre « J'ai envie, moi non plus » et Christophe André se joint à moi pour vous le recommander. C'est signé Cécilia Como. Et merci beaucoup, docteur Juliane Berda, d'être venue ce matin.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.